Hello et bienvenue sur A New How Did You Make It, le podcast au sein duquel nous explorons chaque étape qui a construit le parcours professionnel de divers individus à travers la découverte de leurs habitudes, de leurs passions, de leurs intérêts au cours des dernières décennies. Moi, c'est Yousra, votre hôte, et aujourd'hui, on rencontre Mazarine. Mazarine est l'une des personnes les plus bosseuses que je connaisse. Et je peux dire ça parce qu'on se connaît depuis plus de 15 ans et donc j'ai techniquement été aux premières loges. Mazarine est une légende de la beauté, incollable sur tout ce qui compose vos produits de tous les jours, de la crème qui se trouve actuellement dans vos salles de bain à tous les produits de beauté qu'on utilise en passant par le maquillage et autres. C'est une globe-trotteuse qui a passé des mois en Amérique du Sud, alors c'est une très grande fan de musique et qui apprend actuellement le japonais alors qu'elle s'apprête à se rendre à Tokyo pour sa prochaine opportunité de travail. Bon. J'en dis pas plus, je la laisse tout vous raconter car la liste pourrait être très très longue. Mais en gros, dans cet épisode, elle nous explique comment elle a fait pour allier sa passion pour les produits cosmétiques et la découverte de son métier et te donne tous les conseils dont tu as besoin pour trouver le parcours qui te correspond dans ce secteur ou dans un autre. Partons à sa rencontre. Coucou Mazarine et bienvenue dans l'émission. Comme vous pouvez tous l'entendre, je suis si ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter et ensuite on basculera sur les centaines de questions que j'ai à partager avec les personnes qui nous écoutent.
Merci de m'accueillir dans ce podcast. Je suis Mazarine, amie de Yousra depuis 15 ans maintenant. Tu es face à nos questionnements de vie et de projets, d'études et de qu'est-ce qu'on va faire après au travail, qu'est-ce que je veux réellement, dans quel secteur je veux aller. Je pense qu'on s'est soutenues toutes les deux et tu as une part de responsabilité aussi dans mes choix pro. Et sur à part ça, je suis chef de projet en cosmétique.
Je suis si contente de t'avoir sur le podcast. Effectivement, encore plus reconnaissante pour tout ton soutien et tu pourras toujours compter sur le mien. Ok, donc commençons par ta définition du succès.
Pour moi, le succès, c'est l'accomplissement de mes projets pro ou perso, qui s'accompagne surtout avec le sentiment de fierté et de bien-être. Et en vrai, c'est surtout ces sentiments qui traduisent bien, pour moi, le succès.
Très belle définition. J'aime l'idée de fierté et de se rendre compte de tout le chemin qu'on a parcouru et d'être fier de soi. Ok, donc là, on va passer sur une approche chronologique à ton parcours. Donc, on va commencer par les années collège, puis lycée, puis à la fac et aujourd'hui... qu'est-ce que tu fais, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes années collège? Est-ce que tu avais déjà identifié des cours qui t'intéressaient particulièrement ou est-ce que tu étais plus fort dans des matières que d'autres?
Alors, globalement, au collège, le souvenir que j'ai, c'est d'avoir été une élève assez correcte, avec des notes correctes sur toutes les matières. J'ai pas trop de souvenirs d'être vraiment meilleure sur les matières scientifiques qui aujourd'hui sont très importantes pour mon métier. Mais c'est vrai que là, avec le recul que j'ai un peu, j'avais peut-être plus de facilité sur les langues.
Ouais.
Donc, tout ce qui était anglais et espagnol, bon, l'espagnol est facile avec des parents. Chilien, c'était évidemment simple, mais... c'est vrai qu'en anglais, je me débrouillais vachement bien et c'était pas une corvée non plus d'apprendre des verbes irréguliers.
Ouais. Après, ça n'était pas hyper connecté finalement à ton intérêt pour la musique anglophone.
Si, parce que en vrai, mes notes ont commencé à être meilleures en anglais. Mais vraiment, je me suis mise de passion pour ce groupe-là.
Oui, McFly.
C'est une vraie passion. Donc, à tel point que du coup, en cinquième, je passais tout mon été en fait, à écouter des interviews en anglais de ces gars-là.
Ouais.
Et du coup, j'avais passé de ma cinquième à ma quatrième à écouter que de l'anglais, bon, sans le parler,
ouais.
Avec d'autres groupes. Je me souviens que j'aimais beaucoup Paramore à l'époque aussi. Et du coup, j'écoutais des interviews de ces deux groupes-là en anglais.
Je me rappelle.
Et du coup, j'avais passé ouais, un mois et demi à écouter que de l'anglais. Donc forcément, ça a une répercussion sur, sur mes notes.
Ouais, ton aisance qui s'est du coup montrée.
Ouais, qui s'est...
Ouais, qui a fait la différence.
Ouais, qui a fait la différence.
Ouais, ouais non, c'est clair.
Bah, c'est vrai que la musique a eu un pouvoir...
Ouais, finalement, tu te rends pas compte.
Sur, tu t'en sur les notes, quoi.
Ouais. Ouais, parce qu'à moins qu'on te le dise plus ou moins, en fait, on se rend compte sur le moment que consommer, en fait, une langue étrangère de manière quotidienne, ça te permet vraiment de t'imprégner et d'apprendre la langue beaucoup plus facilement.
Ouais, clairement.
Et du coup, on va continuer sur le volet, genre passion. Ouais, donc du coup, hyper intéressée par tout ce qui était musique anglophone.
Ouais.
Aussi, tu avais des cours de guitare.
Oui.
Et tu faisais beaucoup de photos.
Exact.
Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu as commencé la guitare?
J'ai commencé la guitare. Bah, je pense que c'était le fruit de cette consommation de rock anglais
Ouais.
À outrance. Et de me dire, ah, bah, c'est vachement bien. Enfin, je... Puis juste le fait de dire, bah, je vais pouvoir jouer un peu mes musiques préférées, ça serait trop bien, tu vois.
Ouais, non, c'est clair.
Et je pense qu'il y a un petit côté aussi, bah, envie des parents.
Ouais. Du coup, pour la photo, je me rappelle que tu avais commencé au collège. Tu te rappelles comment tu as commencé ou pas?
Ouais, je me souviens. En vrai, la photo, elle a réellement commencé quand mon papa m'a offert mon premier réflexe. Et vraiment, pour le coup, en plus, c'est un appareil pro.
Ouais, je m'en rappelle.
Quand j'étais en cinquième, quoi. Donc, c'était vraiment un gros cadeau de Noël. Donc, c'était un gros truc. Et je pense qu'à partir de là...
Bah ouais, enfin, j'ai fait plein de trucs. J'ai testé plein de trucs sur l'appareil photo. Vu que c'était du manuel, du réflexe. Enfin, y avait... T'étais libre de faire ce que je... enfin, j'étais libre de faire ce que je voulais avec l'appareil. Et... Du coup, je me suis pas mal renseignée comment avoir cet effet grâce avoir cet effet avec l'effet manuel de l'appareil. Du coup, j'ai appris pas mal de trucs bah, seule, finalement, en regardant bah, sur les bouquins qu'on m'offrait. Parce que du coup, je suis pas sûre qu'à l'époque, j'allais beaucoup sur Internet pour aller regarder. Ça existait moins qu'aujourd'hui où tu vas sur YouTube et tu sais facilement comment contraster tes photos. Et ouais, après, ça m'a suivi longtemps. Hein. Ouais.
Je pense que, ouais, jusqu'à la fac, après la fac, je me suis concentrée
sur les cours.
Sur d'autres.
Ouais.
Sur d'autres. Ouais, sur les cours.
Ouais. Ouais, je me rappelle. Tu sais, je me rappelle aussi d'un moment où on était allé dans Paris hyper, hyper tôt.
Ouais.
Et on était allé prendre des photos.
Oui.
C'était pas pour un concours à ta fac?
Non, c'était un concours photo au lycée.
Au lycée? Ok.
Au lycée, je me souviens, il y avait un concours photo. Je crois que c'était ici ou d'ailleurs.
Ouais.
Et du coup, je voulais prendre un monument touristique. Parce que du coup, tu as le ici,
ouais.
Avec le monument qui est ancré en France. Et touristique par le fait, bah, du coup, tu as tout le monde qui vient,
ouais.
Qui vient voir ces monuments-là.
Mm.
Bon, j'ai peut-être fait l'erreur de ne pas photographier les touristes. Et c'est peut-être pour ça que j'ai perdu le concours. Évidemment, sur ma photo, il n'y avait que le ici, il n'y avait pas le ailleurs, je crois.
T'allais l'imaginer.
Ouais, ouais.
Ou à ce moment-là, les années collège, tu ne savais pas exactement ce que tu voulais faire.
Non.
Enfin, tu n'avais pas d'idée de métier ou de secteur dans lequel tu voulais
faire. Non, pas au collège.
Ok. Donc ensuite, tu dois aller dans un lycée spécialisé du coup S ou ES à l'époque. Du coup, à quoi ressemblaient tes années lycée? Est-ce que tu pourrais dire que c'était hyper clair dès la première année? Est-ce que tu voulais faire un peu plus tard? Parce qu'en fait, tu t'es spécialisée.
Année lycée, c'était plus les années découvertes de ce que je voulais faire plus tard.
Mmh.
Donc, pour être assez honnête, j'ai quand même eu la chance de savoir assez tôt ce que je voulais faire et dans quel secteur je voulais aller.
Ok.
Et j'ai jamais lâché à partir de là. Donc, c'est vrai que j'ai eu un peu cette chance-là.
Ouais.
Où au fur et à mesure des années lycée, bah là, effectivement, j'ai révélé où j'avais de largement meilleures notes en sciences qu'en français, par exemple, et qu'en SES. Bon, j'avais toujours de très bonnes notes en langue. Mais je me suis pas dit, je vais aller... Même en ayant de très bonnes notes en langue, je me suis pas dit, je vais aller dans cette direction-là. Donc, c'est plus avoir à 14-15 de moyenne en physique, chimie, maths.
Ouais.
Je me dis, bah tiens, là...
T'as tes forces, quoi.
Ouais. J'ai un truc à tenir dans cela. Donc, en vrai, en seconde,
ouais.
Je me suis dit, bon, forcément, de manière assez instinctive, comme j'ai des meilleures moyennes en sciences qu'en français, SES, je vais faire sciences. S, quoi.
Ouais, c'est clair.
Donc, assez naturellement, je me suis redirigée vers les sciences. Et je pense à partir de la première où j'ai vraiment, du coup, excellé en physique chimie. Et du coup, c'est vrai que j'avais plus de facilité dans ça, ou enfin, les calculs, enfin, la manière de réfléchir, je pense, ultra pragmatique des sciences, me plaisait bien. Alors que développer des trucs en français, des textes, partir sur des trucs et comment l'auteur l'a imaginé à l'époque, c'est quelque chose qui est beaucoup moins à l'aise.
Ouais, non, je comprends.
Donc, j'ai fait beaucoup d'efforts par rapport à ça et à réussir à développer mes idées.
Ouais.
Parce que j'excellais pas dessus.
Ouais.
Et je pense, en vrai, à ce moment-là, j'ai commencé à développer aussi un peu la passion des cosmétiques. Parce qu'en vrai, au lycée, tu commences à te maquiller, tu commences à voir, tu mets plein de crème et en fonction de la qualité de ta peau, tu dis, j'ai de l'acné, j'ai envie de régler ce problème, comment je fais, quoi.
Ouais.
Donc, au fur et à mesure de un peu ma passion pour les cosmétiques, du coup, j'étais quand même très focus dessus. C'est des tutos YouTube de skincare et de maquillage, j'en ai vraiment lu énormément sur Internet.
Ouais.
Jusqu'au lycée, et c'est là aussi où j'ai aussi continué à améliorer mon anglais.
Ah mais oui, parce que du coup...
Parce que du coup, je regardais que des tutos de maquillage en anglais. Donc le forehead, highlight, face, use your eyebrows, your concealer is creasing under your eyes. Et tout ce champ lexical anglais, je l'avais super bien intégré.
Ouais,
donc du coup, ça aussi, ça m'a aidé à améliorer mon anglais sur ce secteur-là. Donc ça a aussi nourri mon envie de travailler dans les cosmétiques.
C'est fou parce que du coup, t'es passé de « je ne sais absolument pas ce que je veux faire au collège »
ouais.
À « ok, j'identifie mes forces, je me sens beaucoup plus à l'aise ».
À l'idée d'investir du temps et tout donner pour réussir dans les matières scientifiques, car premièrement, tu te rends compte que tu passes déjà un temps fou à regarder du contenu sur ces sujets. Et deuxièmement, que tu peux allier les deux petit à petit en maîtrisant la base de la chimie au lycée. C'est super inspirant.
Tu disais que tu n'excellais pas en français, mais aujourd'hui, dans ton job de tous les jours, tu es quand même amené à écrire des rapports, que ce soit en français ou que ce soit en anglais.
Ouais, après, ça reste des rapports scientifiques.
Ouais.
Donc, c'est très... Et après, c'est... Enfin, ça sera jamais ça sera jamais à l'échelle scolaire.
Ouais.
D'autant plus que en entreprise, les gens n'ont pas beaucoup de temps pour lire des rapports, mais le plus synthétique t'aimes, mieux c'est. Donc être ultra synthétique, c'est ce que je sais faire. Développer des trucs, c'est pas développer des idées, vraiment faire un paragraphe sur une idée,
ouais.
J'ai du mal. Mais être ultra synthétique sur quelque chose, ça j'y arrive.
Et ça c'est super parce qu'en fait, ça montre que développer des compétences à l'écrit parce que ça sera nécessaire.
Oui, c'est vrai.
Parce que en fait, dans tout métier, t'en as besoin.
Oui, t'en as besoin.
Ouais.
Après, l'écrit, tout le monde...
Ouais.
C'est vraiment un écrit littéraire que j'arrivais pas à atteindre,
ouais.
Tu vois.
Ouais.
Pour moi, être journaliste, ça me paraît... faut être trop fort à l'écrit, quoi.
Ouais, ouais, c'est vrai, c'est clair. Ouais.
Et c'est le genre de métier que j'aurais pas imaginé pour moi, tu vois.
Mm. Non, c'est vrai que t'as carrément besoin de compétences.
Mais après, rien n'est figé non plus, tu vois.
Ouais, ouais, tu peux carrément changer.
Faire écrire des articles ou donner son avis sur certains trucs, sur des restaurants, sur certains produits cosmétiques, sur le marché qui font de base, effectivement,
peut-être que
ça pourra améliorer. Améliorer, c'est pas comme si j'étais complètement nulle dessus, mais...
Oui. Non, mais je suis totalement d'accord. En fait, l'idée, ce serait que peut-être que si tu approchais les choses sur des sujets qui t'intéressent et qui te passionnent, peut-être que du coup, ça changerait en fait l'approche scolaire.
Ouais,
Léa, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, du coup, ok. Du coup, je suis allée hyper loin dans le temps parce qu'on parlait du lycée. Donc,
ouais.
Physique, chimie, maths, tu as pu réussir et d'avoir des super bonnes notes, est-ce que ça t'a permis en fait d'équilibrer face aux matières qui étaient un peu moins dominantes? Parce que tu avais quand même la philo, non?
Ouais, j'avais de la philo terminale.
Ouais.
Langue, histoire géo. J'étais une réforme où histoire géo, au bac, on l'avait passé en première.
Oui, c'est vrai.
Du coup, histoire géo, je l'ai passé en première. Donc, en terminale, il me restait... Bah non, il n'y avait plus français non plus.
Non, en fait, on passait en...
En première, on avait français et histoire géo.
C'est ça.
Du coup, j'avais eu de bonnes notes en histoire géo. Et en fait, c'était simple aussi parce que du coup, je trouve que les sujets qu'il y avait au bac, c'était des sujets beaucoup plus contemporains. Je crois que c'est des sujets de la Seconde Guerre mondiale ou géographie. Donc, les agglomérations. Donc, c'était beaucoup plus contemporain, donc ça me parlait davantage que les périodes de la Révolution ou des trucs plus lointaines. Mmh. Donc, c'était plus facile pour moi.
Ouais.
Après, français, c'était correct. Oublie dit, c'est pas là où j'excellais.
Et c'est pas grave, tu t'en es sortie. Ok, donc là, on est en terminale. T'as identifié tes forces, tu t'es concentrée. Du coup, t'as été assez studieuse, en fait, sur ces trois dernières années au lycée, non?
Et en vrai, j'étais devenue plus studieuse qu'au collège.
Ok.
Certes, j'arrivais bien à comprendre et à avoir de bonnes notes, mais si je bossais pas à côté, je pouvais pas avoir ces notes-là.
Ok.
J'étais obligée de taffer pour avoir des bonnes notes, quoi. Je fais pas partie des personnes qui révisent, qui relisent trois fois leur page pour avoir 18. Moi, je t'avoue, il fallait que je passe une semaine à refaire plein d'exercices pour atteindre 17, quoi.
Ouais. Je me rappelle que t'étais quand même hyper rigoureuse dans ta prise de notes, mais aussi dans les fiches que tu faisais.
Ah oui, moi, j'aime bien faire les fiches. C'était un peu une petite passion d'étudiante, mais vraiment. Mais en plus, bon, ça fait partie de la pédagogie aussi, devoir réécrire ce que tu as appris. Enfin, du coup, ça m'a plus servi après à la fac de faire des fiches qu'au lycée, où tu fais des fiches, au final, tu te rends compte que tu recopies ton cours.
Ouais.
Ne sert... Bon, si, ça sert un peu parce que tu recopies, donc tu apprends en même temps. Mais oui, je me rappelle d'habitude.
Non, mais je me rappelle que tu avais genre des mini-classeurs avec des mini-fiches. Et en fait, tout était super bien organisé. Tu avais même des intercalaires.
Oui.
Je pense que je pouvais lire tes fiches et comprendre mieux que mes cours.
Ah ouais?
Ouais. Du coup, ça m'aidait un peu plus quand j'avais des trucs très synthétiques, très genre A plus B.
Bah, du coup, tu vois, ça revient sur le fait d'être très synthétique. Ça me va bien, tu vois.
Ouais, carrément. Carrément, carrément. Ok, donc du coup, c'est hyper intéressant le fait que tu t'aies souligné que, ok, tu avais identifié tes forces, mais que c'était quand même nourri par un travail acharné en parallèle,
ouais,
où tu travaillais assez rigoureusement pour pouvoir te permettre en fait d'atteindre ces notes.
Ouais.
Ok. Ouais. Du coup, on est en 2014. On passe notre bac. On a notre bac et là, en fait, t'as décidé de poursuivre les études
en Chine.
En Chine. Et donc, t'as fait un choix d'université et tu t'es dirigé vers ça. Est-ce que dès la première année, ça a confirmé ton intérêt ou pas?
Alors, juste pour revenir un peu en arrière,
ouais.
Je savais déjà au lycée, que je voulais aller dans les cosmétiques, mais je ne savais pas encore que les cosmétiques, c'était de la chimie. Et c'est là où ça s'est vraiment... où je savais qu'il fallait que je fasse de la chimie pour aller dans les cosmétiques.
Ok.
Et du coup, je me souviendrai toujours d'un moment d'une ancienne copine qu'on avait au lycée, qui était dans ma classe. Et je me souviendrai toujours du moment où on était à la piscine, on se maquillait pour se préparer pour retourner en cours. Mmh. Et du coup, elle m'avait dit, mais vraiment simplement, on se mettait du mascara devant le miroir. Et elle m'a dit, mais genre vraiment, juste une phrase, elle m'a dit, mais meuf, tu sais que les cosmétiques, c'est de la chimie. Genre là, le mascara, c'est de la chimie. Et genre, je me souviendrai toujours parce que du coup, c'est vraiment à ce moment-là, je me suis dit, waouh, fusion. Mais vraiment, je me suis dit, mais attends, je suis trop forte en physique chimie. Et genre, on avait des premiers cours de chimie orga à ce moment-là au lycée, je me souviens. Et j'avais quand même plus aimé ce qui est parti chimie orga que physique, qui était très intéressant et que je comprenais bien et j'arrivais bien. Mm-hmm. Mais vraiment, la partie chimie orga et le fait de... Enfin, après, il y a un petit côté où genre... comment tu sais que tel atome va réagir avec ça? T'as un peu un petit côté... je sais un peu prévoir le futur, tu vois. Je sais comment les atomes vont réagir. Ce qui est un peu l'impossible dans la vie réelle. Donc, c'est un peu ce côté... je peux pas un tout petit peu prévoir le futur en chimie, orga, mais vraiment un tout petit peu. Et du coup, j'avais déjà un peu ce kiff-là. Et de savoir que la chimie que je kiffais était en lien avec les cosmétiques. Et là, je me dis, bon, allez, c'est bon. T'as trouvé là où tu veux aller. Si tu veux des cosmétiques, bah, si tu veux faire des cosmétiques, il faut faire de la chimie. Et je pense que, du coup, en sachant ça, j'ai eu la force de me dire, du coup, il faut que je trouve un truc en études supérieures en chimie. Et qu'est-ce que je fais en chimie ? Parce que la chimie, t'as des écoles d'ingé. Donc, qui dit école d'ingé, classe prépa. Est-ce que j'ai envie de faire des classes prépa ? Sinon, qu'est-ce qui s'offre à moi ? Fac. Ou sinon, il y avait aussi BTS et DUT.
Ok. Ah oui, il y a quand même vachement d'options.
Ouais, t'as quand même plein d'options pour faire de la chimie. T'as beaucoup de portes ouvertes déjà en terminale.
Ouais.
Parce que je sais que c'est vrai que ma première option, c'est que j'avais en tête, c'est je vais faire une école d'ingé.
Ouais.
École d'ingé, +5. Si tu as une voie un peu élitiste, je dis je vais aller dans cette voie-là, c'est sympa. Du coup, comme je voulais faire en premier lieu une école d'ingé, du coup, il fallait que je passe par une classe prépa.
Ok.
Et pour avoir une classe prépa, je ne sais plus quoi faire. Pour faire chimie, il fallait faire PCSI.
D'accord.
Du coup, tu as différentes classes prépa. Tu as celle spéciale en maths, spéciale physique-chimie et des trucs en bio qui étaient BC, BST, un truc comme ça.
Ok.
Donc moi, je m'étais ciblée sur le PCSI.
Ok.
Pour faire physique-chimie. Et en allant dans les bordes ouvertes de classe prépa, en fait, en parlant avec les gens, c'était 2 ans à acharner, t'as pas de vie sociale. Puis je me suis surtout rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de maths et de physique que de chimie.
Ah oui, d'accord.
Donc je suis en mode, moi, je veux faire juste de la chimie, en fait. J'ai pas très envie de faire beaucoup de maths et beaucoup de physique. Ouais. Sachant que, certes, j'y arrive, mais ça me saoule, tu vois. Au bout d'un moment, je pourrais te faire que ça, quoi.
Ouais.
Bah, du coup, ça m'a un peu désenchantée de la classe prépa. Tu vois, j'ai pas très envie. Enfin, en gros, ça répondait pas à ce que je voulais.
Ouais, bah oui.
De faire. Du coup, ça fait que j'avais pas beaucoup de chimie. J'avais pas très envie de passer 2 ans de concession à mettre de côté ma vie sociale, quoi. Bosser 2 ans de manière acharnée, c'est pas trop ce que je voulais.
Surtout qu'il manquait en fait l'élément clé en fait.
Ouais, ouais.
Faire clairement de la chimie.
Faire que de la chimie.
Ouais.
Du coup, j'ai décidé de faire la fac. Fac de chimie. Et finalement, t'es plus autonome, plus libre. Ouais. Après, je crois qu'il y a un côté de ma personnalité qui fait que. Et c'est le cas dans les classes prépa, c'est que du coup, les gens. Enfin, t'as beaucoup les professeurs qui sont derrière toi.
Ouais.
C'est-à-dire, t'as pas fait tes devoirs, faire ci, faire ça. Enfin, t'avais beaucoup de contrats à rendre en classe prépa. Et je pense que c'est un petit côté que j'avais plus envie d'avoir aussi. Donc, ça répondait pas à mon besoin et à ma personnalité. Alors que la fac, t'es plus libre, t'es plus autonome. Et tu gères toi-même ta charge de travail, tes devoirs, c'est toi qui gères. Donc, c'était plus en accord avec moi-même. Et puis, il y avait que de la chimie.
Ce qu'on peut retenir de ce que tu nous partages, c'est qu'il faut absolument aller poser les questions aux personnes.
Ouais.
Parce que...
Et je reviendrai après, et ce qui a fait la différence, c'est sur un autre choix après que j'ai fait. Et en vrai, les portes ouvertes, en fait, d'avoir le ressenti des gens qui y sont, ça te fait ouvrir les yeux et dire, j'ai pas envie de
ça. C'est ça. En fait, ça te fait gagner du temps parce que t'aurais pu techniquement y aller.
Ouais.
Prendre le risque, enfin, du coup, pas prendre le risque, mais y aller, et te rendre compte que ça te correspond pas.
Et d'avoir perdu du temps, de me dire, j'ai fait 2 ans de classe prépa, ça me saoule. Après, je pense que quand tu fais classe prépa, tu refais pas une L1, tu passes directement à L3. Mais du coup, ça m'a évité tout ce chemin-là où je pense que ça m'a préservé, je pense, dans mes capacités. Je pense que si j'étais passée par ce voilà, si je me dis, en fait, j'ai pas réussi la classe prépa,
ouais.
J'aurais peut-être eu un petit syndrome d'infériorité en mode, si je suis pas capable d'aller en école d'ingé, j'ai pas réussi ma classe prépa, je suis nulle, du coup je retourne à la fac, quoi.
Ouais. Enfin, l'impact, il aurait pu être assez.
Je pense que cet impact-là aurait été beaucoup plus négatif sur ma conscience, ma confiance en moi.
Ouais.
Et du coup, j'ai pas pris ce chemin-là et je suis allée directement à la fac. En gros, j'étais quand même suffisamment mature au lycée de me dire, j'ai pas envie, je préfère être autonome dans ma gestion du travail en étant à la fac en classe prépa.
Je pense que c'est un exercice hyper important, en fait, de se poser, de dire qu'est-ce qui me correspond.
Ouais.
Qu'est-ce qui a fonctionné et qui a fait que j'ai réussi ces dernières années.
Ouais.
Pour ensuite faire le...
Mais c'est quand même assez tôt, quand même, dans les études. C'était les premières études supérieures qui définissent un peu, quand même, ta trajectoire professionnelle après.
Ouais, et encore une fois...
Et en vrai, ça définit, mais...
Enfin, t'as le droit de changer d'avis, quoi.
Ouais, t'as le droit de changer d'avis, et c'est pas non plus... je sais qu'au travail, il y a quand même des... Enfin, je fais le même travail que des filles qui sortent d'école d'ingé, et moi, de fac de chimie. Donc on se retrouve tous les chemins mènent à Rome. Donc en fait, finalement, avec le recul que j'ai, je me dis, en fait, si j'avais fait classe prépa école d'ingé ou la fac de chimie que j'ai suivie, au final, sortir d'école d'ingé ou de fac ou de master de chimie, en fait, on est tout aussi légitime qu'un cursus élitiste pour atteindre un métier.
Et encore une fois, en fait, ce que tu as mentionné tout à l'heure et ce qui est super important, c'est de se concentrer sur le type de parcours qui te correspond le mieux.
Mmh.
Et en fait, analyser ça face à ta personnalité, parce que si tu as vraiment besoin d'encadrement, aller à la fac, ça va être vraiment brutal, en fait, sur les premières années.
Ouais.
Mais par contre, si tu te sens que tu peux plus ou moins te gérer, ou si vraiment tu as l'impression qu'en fait, tu as besoin de ne pas avoir de pression du corps professoral, go à la fac.
Ouais.
Ouais. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Et du coup, et pour souligner un des conseils que tu as dit, essayez d'aller dans des salons, dans des portes ouvertes, etc.
Les portes ouvertes des écoles.
Ouais.
Parce que du coup, il y a beaucoup d'étudiants qui ont suffisamment de recul pour dire, oui, effectivement, c'est la bonne voie. C'est comme ça, en classe prépa, on est beaucoup encadré, il faut faire des devoirs, il y a l'école à préparer, machin.
Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais, je pense que toutes ces informations, de toute façon, elles sont dispo, elles sont assez dispo en ligne. Je trouve qu'avec tous les réseaux sociaux, il y a encore plus d'informations qui circulent quand les portes ouvertes ont lieu, etc.
Ouais.
Ouais, donc du coup, tu disais que tu avais l'option BTS, DUT, tu avais l'option fac, tu avais l'option prépa, école d'ingé, et c'est tout.
Ouais. Pour la chimie.
Ouais. Et donc, du coup, tu t'es focus sur...
Et du coup, j'ai pris la fac de chimie.
Ce qui t'a plu.
Ouais.
Est-ce que t'as dû te spécialiser en cours de route ou c'était vraiment genre 3 années focus?
Alors, c'est 3 années chimie. Et en dernière année, tu peux choisir des petites spécialités.
Ok.
Du coup, la dernière année, j'ai pris quand même spécialité chimie du vivant.
D'accord.
Parce que toujours les cosmétiques. Du coup, en faisant les portes ouvertes d'une école spécialisée en cosmétiques, je me suis rendu compte que, du coup, certes, les cosmétiques, c'était de la chimie, mais c'était plus à mon avantage d'avoir de la chimie du vivant, parce que c'était aussi, comme ça en lien avec de la peau, d'avoir la chimie, tout ce qui est bio, la chimie liée à la biologie était important.
Ok. Donc, encore une fois, c'était les portes ouvertes qui t'ont permis, en fait, d'aider sur tes choix.
Ouais.
Okay.
Parce que du coup, l'école, l'ISIPCA que j'ai faite, j'ai dû faire 2-3 portes ouvertes. Vraiment, littéralement, j'y suis allée genre 2 fois sûre, 3 fois, je sais pas.
Ouais.
Je sais plus. Mais je suis sûre et certaine, j'ai fait 2 portes ouvertes de cette école. Parce que du coup, comme c'était un peu l'école de renom en cosmétique, parfumerie, je me suis dit, je vais essayer d'aller là-bas, quoi. Et en faisant...
En Ile-de-France.
Et qui était basée en Ile-de-France. Du coup, ça m'évitait de bouger trop long.
Ça ne fait pas partir de Paris.
Mais du coup, j'aurais fait la même chose si ça avait été à Lyon, Bordeaux ou à Troyes. C'était vraiment l'école que je voulais cibler. Mais du coup, je savais que c'était que je voulais aller dans les cosmétiques, mais je ne savais pas dans quel métier, dans quelle spécialisation je voulais aller. Parce que les cosmétiques, c'est
ultra large.
Ouais. Donc, assez facilement, on pense à la formulation cosmétique.
Mmh. Donc, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ?
Oui. Alors, formulation cosmétique, c'est simplement l'assemblage de matières premières pour faire des produits cosmétiques.
Okay.
Donc, c'est un peu comment faire sa bonne mayonnaise, quoi. C'est vraiment, tu mélanges toutes les matières premières pour faire une crème, donc crème pour le visage ou du... mélanger des matières premières pour faire du maquillage.
Ça marche.
Donc, instinctivement, on pense... Enfin, j'ai pensé que si je faisais chimie, du coup, il fallait que je fasse de la formulation cosmétique. Mais en étant chimiste, finalement, en allant dans les portes ouvertes, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que ça. Et c'est en discutant avec les filles de master de formulation, et elles m'ont dit « oui, c'est bien et tout, c'est super intéressant ». Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai appris que les masters étaient en alternance. Donc, BNF, d'un point de vue professionnel et acquisition de compétences. Et aussi, du coup, j'avais pu avoir un vrai échange avec elles, où j'ai pu avoir aussi le côté positif qu'elles avaient ressenti, mais aussi leurs craintes dans le secteur.
Okay.
Donc, je me souviens qu'il y en avait une d'entre elles qui m'avait dit... ouais, c'est trop bien, on fait de la formulation et tout ça, c'est ultra intéressant. Mais je t'avoue, j'ai un peu, enfin, ça reste quand même un secteur, la formulation cosmétique, un peu bouché. Et du coup, moi, j'arrive, je rentre dans un master, je vais spécialiser. C'est pour savoir qu'à la sortie du master, c'est bouché et je trouve pas de travail, en fait, c'est pas du tout rassurant.
Ouais.
Et en fait, comme c'était un master en alternance, je me souviens dans le site, t'avais un pourcentage d'élèves qui retrouvaient un emploi dans les 9 mois après la fin
de l'obtention du diplôme.
De l'obtention du diplôme. Et je t'avoue, le pourcentage n'était pas ouf. Bon, je ne sais plus lequel c'était, mais c'était suffisamment pas ouf pour que je me dise que ça remette en question le choix de ce master.
Ouais.
Et du coup, en fouillant un peu plus dans les masters qu'ils proposaient, du coup, j'ai vu qu'ils proposaient un autre master qui était dans les matières premières cosmétiques.
Ok.
Mais pas dans la formulation.
D'accord.
Donc, il est encore plus en amont
de l'exercice de formulation.
De l'exercice de formulation. Donc, comme je disais, la formulation, c'est un mélange de matières premières pour assez stable pour faire une crème. Et du coup, le master de matières premières naturelles, c'est encore plus en amont, c'est de développer ces matières premières pour la formulation.
Ok.
Et en vrai, bon, du coup, comme j'ai su ça. L'année d'après, je suis retournée faire les portes ouvertes pour avoir des informations et l'avis des nanas qui étaient là-bas. Et en vrai, ça m'a plus rassurée.
Ouais. Parce que du coup, les retours étaient un peu plus...
Ouais, c'était plus positif. Puis en vrai, je sentais que c'était plus un... Enfin, je sais plus trop où j'ai... Je sais même pas si c'est une information avérée que j'ai trouvée ou c'était juste mon propre ressenti.
Ouais.
Mais je me suis dit, développer des matières premières cosmétiques naturelles, enfin, je trouverais plus de postes à la suite de ce master-là qu'en formulation. Je me dis, j'aime pas trop dire en mode c'est tendance les produits naturels parce que on a un moment où, enfin, faut pas que ça soit dedans, c'est un peu indispensable et on est obligé d'aller dans cette voie-là pour la survie de l'environnement, en fait. Du coup, je sais pas, je me sentais plus à l'aise avec ce master-là, qui avait plus de débouchés et qui était un peu un secteur d'avenir.
Ouais.
Au moment où j'ai commencé à réfléchir à ce master-là. Et du coup, je crois que j'étais plus sereine sur ce master-là, donc j'ai décidé de partir sur ce master-là.
Ok. Et du coup, là, en fait, t'arrives en première année. Est-ce que trouver une alternance était obligatoire ?
Ouais.
Ok. Du coup, comment t'as fait pour trouver ton alternance ?
Alors, mon alternance...
Parce que c'est quand même un secteur qui est tout nouveau, en fait. Tu connais personne dans ce secteur-là.
Non, je connais personne.
Donc, tu pars vraiment de rien du tout.
Ouais, je pars de zéro.
Comment, en fait, du coup, ton intérêt pour ce master et ta recherche ? Ok.
Alors, comment j'ai trouvé mon alternance ?
Déjà, est-ce qu'il y avait beaucoup d'offres ?
Non. Non, mais parce qu'après, comme j'étais dans un. J'avais choisi un master dans les matières premières, il fallait que je trouve une alternance en lien avec les matières premières
Ouais,
cosmétiques.
du coup, ça te limite pas mal.
Donc ça me limitait pas mal. Donc en plus, notre école, donc t'avais pas mal de masters où t'as des alternances un peu en concurrence, quoi. Donc typiquement, une alternance en formulation n'est pas éligible pour quelqu'un de notre master.
D'accord.
Du coup, l'alternance est donnée à un autre master. Bah, typiquement ceux qui faisaient de la formulation. Et moi, ce que j'avais fait, bah, du coup, comme je savais que je voulais faire des matières premières, je crois que j'étais allée taper aux portes de tous les fournisseurs de matières premières. Et j'avais envoyé. Bah, du coup, je crois que j'avais dû.
T'avais pas acheté un livre?
Si, ouais, j'avais acheté des annuaires.
Ouais, oui, t'avais genre ça.
J'avais acheté des annuaires, puis non, en vrai, comment ça s'est fait? Je pense qu'en licence, ça en licence, on a souvent des interviews projets professionnels.
D'accord.
Où je me souviens, en licence, on avait un projet professionnel à faire.
Ok.
Et du coup, j'étais allée chercher. On devait aller interviewer des gens dans le secteur dans lequel on voulait travailler, leur poser des questions. Et bah, du coup, on devait rédiger un rapport avec les réponses et tout ça. Enfin, tu devais construire un projet professionnel. Il y avait une UE, c'était ça. Et. Du coup, c'est très drôle parce que je suis en train de me souvenir que j'avais. Genre, il fallait choisir un métier. Et je crois que le métier que j'avais choisi, c'est le métier dans lequel je suis en train de bosser. Genre, j'ai chef de projet cosmétique matière première. Donc, j'avais déjà identifié à l'époque le master que je voulais. Ouais, L2, du coup.
Ok, c'est fou.
Et du coup, bah, je crois que c'est ma mère qui m'avait quand même réussi à me trouver un contact qui travaillait dans les cosmétiques.
D'accord.
Et au fur et à mesure, les questions que je lui posais, elle m'a dit, bah, si tu cherches des trucs, tu as l'annuaire de la Cosmetic Valley,
Okay.
qui est une sorte d'association bah, de cosmétiques avec plein de marques cosmétiques et de fournisseurs de matières premières.
Ok, ouais, qui sont pas oubliés du coup, parce qu'ils sont tout aussi importants
Ouais,
en fait que
ouais. Et du coup, sachant ça, je crois que je suis allée sur leur site, il y avait l'annuaire public, et je crois qu'elle m'avait filé un annuaire aussi à l'époque. Et vraiment, pour le coup, c'est un annuaire où tu as toutes les marques.
ouais.
Bah, tu as des marques de packaging, tu as des marques bah, de produits finis comme Hermès, L'Oréal ou Chanel, et des fournisseurs de matières premières et des sous-traitants en formulation.
Ok.
Donc, c'est à ce moment-là où j'ai vu un peu comment se construisait un peu la cosmétique. Mais surtout dans cet annuaire-là, c'est que tu avais des contacts. Donc, qui pouvaient ne plus exister, qui étaient partis, mais le plus important. Et c'est comme ça que j'ai un peu trouvé mon alternance. C'est que du coup, pour chaque entreprise, je savais comment le mail de l'entreprise s'articulait. C'était prénom, point nom,
L'autre.
l'oréal.com, ou ça, c'était super important.
Oui.
Et du coup, pour ma recherche d'alternance que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai tapé sur LinkedIn
Oui.
le poste que je voulais. Donc, chargé, je sais pas, moi j'ai marqué extraction de matières premières ou
Ouais, tu
actif,
as tué
matières
des locaux,
premières,
quoi.
enfin des mots-clés dans le secteur que je voulais. Et du coup, j'ai eu bah, une liste de personnes qui travaillaient dans différentes boîtes, que ce soit boîte de MP, produits finis, de marques ou de
Ouais.
fournisseurs. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé mon CV à ces gens-là.
Ouais.
Donc, je savais plus ou moins si le mail fonctionnait parce que s'il y avait des retours en mode votre mail n'a pas eu son destinataire, bon, je savais que la personne était partie ou un truc comme ça.
Ouais.
Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon alternance.
C'est incroyable.
Parce que du coup, j'avais envoyé ma candidature sur le mail pro.
De la personne qui cherchait parce qu'en fait,
Non, en
pas
fait,
d'offre.
non, j'ai en fait, j'ai presque pas, enfin, j'ai jamais postulé à une offre d'alternance parce qu'il y avait, il y avait, ça, c'était pas dans le secteur que je voulais. Donc c'était, ou c'est alors c'était déjà pourvu parce que les dates, je me suis prise un peu tard aussi. Hein. J'avoue, j'ai un peu laissé traîner. Quand t'as certains alternances qui sont déjà pourvus en février-mars et que moi mon master, bah, je l'ai su qu'en avril, bah, j'ai déjà perdu ce délai-là.
Ouais.
Donc d'un point de vue timing, j'ai un peu traîné.
Après, c'était pas ta faute dans ce cas de figure.
Parce non, que c'était pas trop de ma faute, mais. Mais ça m'a fait perdre du temps sur des postes d'alternance que j'aurais pu avoir. Mais du coup, oui, en alternant, je l'ai trouvé comme ça, en envoyant mes candidatures dans les mails pro directement. Et du coup, bah, en tapant directement, ça pouvait très bien s'envoyer, le transférer à le département des actifs qui cherche. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. C'est que du coup, comme j'ai envoyé mon CV à un collègue,
Qui aujourd'hui est un collègue,
qui travaillait et qui l'a transféré du coup à la manager qui cherchait une alternante.
Incroyable.
Et du coup, comme elle avait déjà mon CV entre les mains, elle m'a sélectionnée et après j'ai eu un mail. Enfin, les RH m'ont appelé. Ils m'ont dit oui, un truc classique.
Ouais.
On a reçu votre candidature. Et du coup, ce qui était drôle, c'est que le premier échange, c'était on a eu votre candidature, on a une alternance qui vous intéresse, je vous envoie l'offre et dites-moi si ça vous intéresse.
C'est incroyable.
Et du coup, quand j'ai reçu ça, c'était
parfait, quoi.
C'était parfait.
Ouais.
C'était absolument ce que je voulais en alternance.
C'est génial. Ok, j'ai tout plein de questions, mais j'en ai juste oublié une. En fait, pour ta candidature au master, est-ce qu'il fallait que tu aies de super bonnes notes en
lycée ? Non.
Ok.
Non, parce que. En vrai, c'est un peu fourbe. Je n'étais pas excellente dans toutes les matières de chimie. J'avais orga, forcément, c'était le truc que je préférais. Donc, j'arrivais à avoir de bonnes notes. Après, il y avait d'autres trucs. Ça me saoulait. Hein.
Ouais, non.
Chimie quantique, chimie théorique, le chat est mort, le chat n'est pas mort. Ça, j'y arrivais pas et c'était pas mon truc, quoi. C'était chimique, physique, mathématiques plus poussées.
Ouais.
C'était pas trop mon truc. Donc, forcément, j'avais d'excellentes notes et des moins bonnes.
Mais c'est hyper intéressant.
La moyenne fait que j'étais moyenne.
Ouais.
Donc, j'ai pris mon licence avec 12, c'est bien, quoi.
Et c'est hyper, hyper important à savoir parce qu'en fait, t'as pas besoin d'être excellent. En fait, je crois que parfois, on se met, tu sais, les limites, on se dit, en fait, il faut que je sois bon partout pour pouvoir me considérer comme capable de faire ça. Par exemple, tu finis ou t'as au cours de ta licence et tu dis, je suis pas excellente, je vais peut-être pas postuler, en fait, pour ce master à l'ISCA.
Ouais.
Alors que finalement, si...
Après, c'est pour ça que les portes ouvertes sont très importantes aussi.
Ok.
Parce qu'il faut savoir se renseigner...
Sur les attendus.
Sur les attendus, et c'est pour ça que je disais que c'est un peu fourbe, parce que du coup, l'entrée dans le master, quand tu vois tout ce qui est écrit dessus, tu dis, mais je vais jamais y arriver. Ouais. Parce qu'on te dit que c'est sur dossier, tu dois passer un concours écrit, un concours oral, et après, t'es pris. Et quand tu dis, t'es sélectionné sur dossier, donc le premier truc que tu dis, c'est que je dois avoir des notes excellentes pour être sélectionné. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Quand je suis allée aux portes ouvertes, les chargés
de t'aider.
Ceux qui étaient les responsables pédagogiques du master.
Ah, trop bien.
Quand je suis allée dans les portes ouvertes, on dit mais c'est sur dossier, mais on vérifie juste que vous avez un bon cursus pour être éligible au master. Mais c'est pas du tout basé sur les notes. Donc en fait, quand tu lis juste ça sur le site et que tu dis c'est sur dossier, avec les revel notes, tu dis instinctivement que tu dois avoir d'excellentes notes.
Ouais.
Et que si une personne qui lit ça sans aller en portes ouvertes, et qui n'a pas cette info-là, du coup, elle passe à côté d'un super master.
Ouais.
Et moi, j'ai su ça en mode... Et après, tous les retours que j'avais en mode « Oh, mais t'es trop forte, t'as eu ce master, c'est très... Il y a beaucoup de sélections et tout ça. » J'ai vu que c'était sur dossier, j'étais « Mais en fait, ils vérifient juste que t'as bien fait une licence de chimie ou de bio pour que tu puisses comprendre le master derrière. » Si tu fais un master de physique, de maths, physique et info, t'es pas éligible pour faire ce master-là.
Ouais, ça a du sens. En fait, c'est hyper compliqué parce que, en gros, du coup, nous, on a de la chance parce qu'on peut passer la journée, par exemple, aux journées portes ouvertes parce qu'on est à côté. Donc, pour une personne, en fait, qui est du coup à Lyon, à Bordeaux ou dans d'autres villes de France et qui, du coup, n'a pas l'opportunité, en fait, de poser ces questions, c'est hyper important de savoir ce que tu viens de partager.
Ouais. Je pense que les portes ouvertes et avoir le ressenti des étudiants.
Ouais.
Enfin, je pense que quand t'as vraiment envie de faire un truc, tu peux appeler la responsable et dire
ouais.
C'est bon. Poser des questions, en fait.
C'est vrai, en fait, tu peux leur envoyer des mails, tu peux aussi contacter les gens sur LinkedIn.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Finalement, tu peux aussi contacter des nanas qui sont en master.
Ouais.
Bon, moi, je sais que j'ai déjà des filles qui m'avaient contacté sur LinkedIn et qui m'avaient posé des questions sur mon parcours et qui avaient quelques craintes.
Ouais.
Et du coup, moi, j'ai pas hésité à dire, mais en fait, c'est écrit sur dossier, mais ils vérifient juste si tu fais de la chimie ou de la bio. Mais c'est pas du tout basé sur les notes.
Oui.
Sur les notes que tu as eues en licence.
Oui.
Parce qu'après, il y a le concours écrit aussi qui fait que bah, si tu passes l'écrit, c'est que tu es suffisamment bon
pour y aller, quoi.
Pour y aller.
Ouais. Non, non, c'est clair. Ouais, en vrai, il faut vraiment pas se limiter. Enfin, c'est assez dur de pas se limiter quand tu connais personne en secteur, quand t'as pas vraiment confiance en toi. Mais en fait, poser des questions, ça t'aide juste à briser la glace et à mieux avancer. Non, mais carrément, c'est un super bon conseil. Ok. Du coup, là, on est arrivé à du coup, l'alternance. Comment t'as su gérer, en fait, les cours plus l'alternance? Est-ce que tu trouves que ça a été hyper intense? C'était quoi ton rythme, du coup?
J'avais un rythme assez sympa, quand même.
Ok, c'était quoi? C'était
c'est deux mois, deux mois. Donc, je faisais deux mois. Enfin, premier mois un cours, après, j'avais fait un mois et demi. Enfin, j'avais de longues périodes en cours et en entreprise.
Ah, c'est trop bien ça.
Donc, en vrai, c'était pas si fatigant que ça.
Ok.
Quand je compare avec des alternants qui sont aujourd'hui au travail et qui ont des rythmes plutôt en semaine.
Ouais, ça, c'est compliqué.
Et même dans la même semaine, t'as trois jours en cours, enfin, deux jours en cours, trois jours en entreprise.
C'est ce que je faisais.
Ouais, ça, ouais. Je l'ai pas fait, ça, mais ça doit être très fatigant.
Ouais.
Et le tenir sur deux ans,
ouais, faut le faire quoi.
Sur un an, ok, mais sur deux ans, ça doit être épuisant. Mais j'ai pas eu ça.
Ok.
Mais ouais.
Okay.
Du coup, comme c'est sur un mois, après, comme c'était sur une longue période de cours et qu'on avait suffisamment de cours, donc on avait souvent les examens à la fin de la période ou de la six périodes d'après. Mais en vrai, c'était pas si fatigant que ça. Même en entreprise, j'étais là suffisamment longtemps pour bien m'imprégner du sujet et d'avancer suffisamment.
Et ensuite, de venir revenir.
Ouais.
Ouais. Okay. Et du coup, tu étais satisfaite finalement après ces deux ans de ton expérience en entreprise, plus de ton master ou pas?
Ouais.
Ok.
En vrai, j'ai peut-être été la seule de mon master à avoir eu le luxe où tout ce que je voyais en cours, je pouvais le voir en entreprise et l'appliquer.
Ouais. Ok.
Et vraiment, avec les discussions que j'ai pu avoir avec des copines de master, où je me suis rendu compte, j'avais un peu la seule à avoir cette vision globale que j'ai eue en master.
Ok.
Parce que du coup, on nous fait vraiment le master, on a vu vraiment, c'était très global.
Oui.
Donc, typiquement, j'ai travaillé sur. En master sur des huiles végétales.
Ok.
On a eu des cours sur les huiles végétales, comment ça les compose, les analyses qu'il faut faire sur les huiles végétales, qui m'ont servi parce que du coup, c'était mon sujet d'alternance.
D'accord. Donc, c'est quand même une information assez, assez importante parce qu'en fait, tu prends quand même un risque d'aller dans un master où tu vas pas, qui est hyper spécialisé, et de trouver en fait l'alternance qui correspond exactement, ça va pas forcément être courant, c'est ça?
En vrai, dans mon cas et dans ma promo, ça a été le cas.
Ok.
Après, je pense que c'est plus simple de voir la vision globale quand tu es directement dans un fournisseur de matières premières. Parce que moi, j'ai eu mon alternance dans une boîte de produits finis. Et que le département dans lequel j'étais, c'était comme si c'était un fournisseur de matières premières.
Ok. D'accord.
Mais du coup, j'ai un peu vu le développement d'une matière première cosmétique dans le département. Qui peut être calqué à une entreprise de produits de matières premières cosmétiques. Ouais,
ok, ça marche. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, une personne qui est intéressée par ce secteur, du coup, après avoir entendu toute cette conversation et qui est hyper curieuse et qui se dit « ça me tenterait de me lancer dedans », est-ce que tu penses que son insertion professionnelle sera difficile?
Non, en vrai, je pense pas. Après, il y a forcément des gens qui galèrent toujours à avoir des alternances. Mais
tu penses que c'est passé parce que tu vois, par exemple, pour une personne qui n'est pas du tout en secteur et qui voit ça de l'extérieur. Je vois ce secteur comme... Enfin, du coup, j'ai juste la perception de ton expérience, etc. Je ne connais pas les personnes qui ont fait le master avec toi, qui se sont dirigées vers ce secteur, mais en fait, j'ai l'impression que c'est... En fait, j'ai la même impression que ce qu'on disait à l'époque, qu'on disait que c'était hyper bouché.
Mmh.
Donc, tu sais, tu te spécialises tellement et tu deviens tellement une experte dans un sujet spécifique que est-ce que... Comment tu répondrais à une personne qui est hyper intéressée mais qui a peur, en fait, de ne pas trouver le job, l'alternance ou juste la possibilité, en fait, de réussir, en fait, dans ce secteur. Est-ce que tu lui dirais quand même d'y aller ?
Ouais. Et de tout tenter. Après, c'est la peur, elle est un peu liée... Enfin, moi, je sais que la peur, elle est un peu moteur aussi d'aller taper à toutes les portes. Ouais. C'est comme si t'as peur de ne pas avoir un truc, bah, du coup, tu te donnes tout pour y arriver. Bah, tu postules à des... Comme tu as peur de ne pas y arriver, bah, tu contactes tout le monde, tu contactes les gens sur LinkedIn, tu achètes des annuaires qui te coûtent 50 balles. Du coup, tu dépenses 150 balles dans des annuaires pour aller taper les noms des gens et de connaître comment les mails s'articulent
ouais.
pour aller chercher les gens sur LinkedIn. Donc, en vrai, la peur, elle est quand même... Elle motive.
Ouais.
Donc elle te un peu elle te pousse à faire des trucs que tu n'aurais pas imaginé et forcément bah in fine tu trouves quand même des ouais. une alternance.
Non, c'est un super bon point et je suis contente que tu le disais parce que ouais effectivement en fait si tu après cette conversation par exemple typiquement pour les personnes qui ne connaissaient pas du tout le secteur et qui sont plus ou moins intéressées maintenant
ouais.
ou pour les personnes qui ont toujours été intéressées par ce secteur il faut étudier sa peur pour pouvoir mieux avancer.
Ouais. Et en vrai, derrière la peur aussi, le fait d'être suractive sur tous les endroits où il faut aller postuler, bah, je pense qu'en vrai, j'avais un peu peur aussi, un peu peur de ça, de ne pas trouver d'alternance. Mmh. Du coup, en te renseignant sur toutes les entreprises qui existent,
ouais.
bah, tu commences à apprendre le secteur.
Ouais.
Donc moi, je me souviens, je crois que même je suis encore plus loin, c'est déjà pas mal les annuaires.
Ouais,
c'est que je suis quand même allée... Je sais pas pourquoi, mais je crois qu'on m'avait un peu conseillé aussi d'aller sur les sites des salons cosmétiques.
Okay.
Et du coup, comme tu vas sur les sites des salons, tu as toujours une liste d'exposants. Et du coup, je crois que j'étais allée sur le site de deux salons cosmétiques qui est Cosmetagora et Incos.
Okay.
Et du coup, surtout le Incos qui est le salon cosmétique des ingrédients de matières premières. Donc le secteur de mon master.
D'accord.
Et du coup, j'avais une liste
ouais.
incroyable de fournisseurs de matières premières.
Okay.
Donc déjà, en lisant un peu, ce fournisseur, il est spécialisé dans ça. Du coup, je regarde, ça m'intéresse.
Ouais.
Je regarde leur site, je vais dans contact.
Ouais.
Je regarde dans l'annuaire. Donc finalement, ça a un peu nourri aussi ma connaissance des fournisseurs de matières premières.
Carrément.
Et je pense aussi ce qui m'a aidé aussi après en entretien.
Oui, parce que...
Parce que du coup... Je suis intéressée par ce secteur et je me souviens pendant mon entretien en alternance, mon ancienne manager m'a demandé « Est-ce que tu as postulé ailleurs ?» Du coup, je lui ai dit « Bah oui, du coup, vous m'avez contactée pour cette offre-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les matières premières. Mm-hmm. Bah, du coup, j'ai postulé chez Solabia, chez Alban Muller, chez BSR, qui font aussi des matières premières et c'est ça qui m'intéresse. »
Ouais, donc du coup,
je suis arrivée en alternance en mode « je connais un petit peu le secteur, quoi. »
Ouais. Ouais, t'arrives vraiment avec des connaissances.
Et du coup, la peur qui m'a au début dit en mode « je vais pas trouver d'alternance », ça m'a conduit jusqu'à connaître le secteur. Et une fois en entretien, j'imagine que j'ai fait une bonne impression en disant « je connais un peu les concurrents aussi, quoi.
Ouais. » Ouais, tu sais ce qui se passe.
Ouais. Et sachant que j'étais dans une boîte de produits finis.
Ouais.
Et que moi, mon intérêt, c'était les matières premières. Mmh.
Du coup, ça me fait juste rappeler un truc que j'ai oublié de te demander. Tu sais, le fait que tu parles de ta motivation et le fait que tu n'as rien lâché. On n'a pas parlé de tes expériences professionnelles quand tu étais au lycée. Tu sais, tout le travail que tu faisais sur les bateaux.
À la fac.
À la fac. Et le fait qu'en fait, tu as quand même construit assez... Parce que tu avais quand même un travail qui était très fatigant.
Oui.
Qui était très demandant. Est-ce que tu peux nous en parler? Du coup, tu faisais ça depuis la première année de fac ou tu as commencé en L2?
Ouais, en L2, j'ai commencé. Ouais.
Du coup, tu faisais quoi, dis-nous?
Alors, en L2, bah, du coup, étudiant, à force de tout le temps sortir et tout ça, bah, j'ai commencé à avoir un petit job étudiant. Qui n'est pas devenu si petit que ça, en fait.
Je m'en rappelle bien.
Oui, alors j'ai fait plusieurs jobs d'étudiant, enfin, un job d'été et tout ça. Et la meilleure solution que j'ai eue, c'est d'être intérimaire dans, bah, dans une boîte intérim en restauration. Qui était très bien, parce que du coup, en tant qu'intérimaire, tu es un peu maître de tes horaires. Donc, c'est toi qui décides.
Quand t'es dispo.
Quand t'es dispo. Donc, bon, chaque semaine n'est pas la même, mais du coup, quand... L'avantage, c'est que c'était ultra flexible. Donc, pendant les périodes de Noël, quand j'avais besoin de réviser pour les partiels de janvier, bah, je leur disais, je suis pas dispo, à telle date, ne me contactez pas.
Ouais.
Mais parce que je faisais ça parce que j'étais pas non plus dans le besoin. Enfin, c'est de la thune en plus. Donc, j'étais bien payée avec un des horaires ultra flexibles.
Mmh.
Et du coup, j'ai quand même taffé sur les bateaux, sur les yachts de Paris.
Ouais.
Et j'ai fait ça pendant 3 ans. 2 à 3 fois par semaine. Surtout les week-ends. Parce que du coup, ça me permettait de faire des horaires plus gros. Et je crois...
C'était très physique.
Ouais, c'était très physique. Et un peu en semaine... Cool. Après la fac.
Okay. Est-ce que tu penses que après cette expérience, tu as quand même appris beaucoup, tu sais, pas sur le métier en lui-même, mais plus sur ta résilience?
C'était assez physique, mais...
Ça t'a quand même appris à être hyper résiliente.
Ouais, mais je pense que ça m'a plus appris sur la communication avec les gens.
Okay.
Plutôt que de me dire le taf est dur.
D'accord.
C'est pas tant la résilience, mais plus le un peu savoir enfin se faire respecter et s'affirmer dans un milieu où il y a que des gars et que dans certaines circonstances avec le stress on te parle mal et que tu dois subir quand un responsable te parle mal, donc c'est plus cette gestion là et quand t'as des clients qui te parlent mal aussi. Ça, j'ai plus de souvenirs de clients bah, surtout que c'était les yachts de Paris, donc tu as des clients assez richissimes et qui te parlent comme de la merde. Donc, c'est plus cette gestion-là que j'ai...
C'est hyper importante, en fait.
Qui est hyper importante après pour le monde de travail.
Ouais.
Et j'ai le souvenir qu'une collègue m'avait dit... Enfin, ça se voit que t'as taffé, que dans la gestion... de la communication avec les gens, ça se voit que t'étais endurcie, quoi. Je me dis... Et finalement, avec le recul et vis-à-vis de ce commentaire-là, je me dis, bah, effectivement, ça fange plus...
Ouais. Ouais. Non, c'est clair qu'en fait, c'est hyper important, toutes ces expériences, avant même, en fait, de commencer tout ce qui est alternance et tout ce qui est vraiment... professionnalisant.
Mais sur n'importe quel taf étudiant, en fait, tu fais même dans la réaction rapide, tout ce qui est en lien avec du client et de la communication, même si c'est juste 2 mois, je pense que tu es direct faire face à des situations assez complexes et tu te mets mal à l'aise et ça te permet de mieux gérer l'émotion aussi. Ça forge quand même vachement. Bah, je pense que la gestion de ces émotions, quand tu fais face à en réunion, on te coupe la parole, ou on dit, ah bah tiens, ton idée, elle est pas si incroyable, tu vois, ça permet d'alléger et de prendre moins les critiques pour soi.
Ouais. Ouais, c'est hyper important. Carrément. Ouais, j'y pensais pas comme ça, mais ouais.
Ouais.
Non, c'est un très bon recul.
Et je pense que ça... Enfin, c'est pas une généralité, mais je pense que ça fait peut-être des collaborateurs plus matures.
Ouais.
Une fois, enfin, tu sais, t'arrives en alternance, je pense que ça fait vite la différence. Quelqu'un qui a déjà bossé 4-3 ans en restauration ou dans la restauration rapide ou qui a fait autre chose. Enfin, l'alternance n'est pas sa première expérience professionnelle.
Ouais.
Hors stage.
Oui.
Et je pense que tu vois la différence de maturité.
Oui, carrément. Carrément, carrément.
Parce que Enfin, moi, je pense que ça m'a vachement aidée aussi dans la prise d'initiative. Parce qu'en restauration, tu ne peux pas rester planté là.
Ouais.
En mode. Bon, bah, dites-moi ce qu'il faut faire, quoi.
Ouais.
T'es obligé de dire. Enfin, t'es obligé d'être ultra.
Proactif.
Ultra proactive, savoir s'organiser, telle table, tel machin, mais s'organiser aussi. T'as tes cours, t'as ton job étudiant. Donc, non, en vrai, faites des jobs étudiants.
Ouais, c'est clair.
Ça forge.
Ça forge carrément. Ouais, et finalement.
Ça forge la personnalité.
Ouais. Et ça te force aussi parce que je pense que ce qui est génial dans les classes prépa, c'est qu'en fait, t'apprends à gérer toute la quantité de travail. Et du coup, si tu ne suis pas en fait le format prépa, le fait d'avoir le format fac plus tous tes cours à réviser et l'autonomie plus du coup le job étudiant, ça te permet en fait de développer des compétences qui sont similaires dans l'organisation, le fait de gagner un peu confiance en soi, le fait d'apprendre toutes ces compétences en communication. Ouais, je suis carrément d'accord. Très bonne réflexion.
Ouais.
Très bon temps. Ok. Donc, on va peut-être basculer sur les derniers sujets. Reparlons de ton travail de tous les jours. Est-ce que tu bosses tous les jours en laboratoire ?
Mon job est plutôt partagé entre 50% de labo et 50% de bureau, je dirais. Je suis pas tout le temps au labo.
Est-ce que tu trouves que tu as un bon équilibre vie pro, vie perso ? Par là, j'entends, est-ce que tu as du temps pour toi ? Est-ce que tu as du temps pour tes proches ?
Alors, globalement, oui. J'ai quand même un très bon équilibre. Et après, le fait de travailler en laboratoire et d'avoir des manipulations en laboratoire, ça force l'arrêt. Donc, à la fin de la journée, je suis obligée de détendre tous les équipements avant de partir pour les reprendre le lendemain. Mais comme je disais tout à l'heure, j'avais 50% de labo, 50% de bureau. Après, tout ce qui est gestion de projet, c'est vrai que j'avais tendance à finir tard le soir pour finir des mails, finir des présentations ou les préparer. Donc c'est vrai que je traînais facilement jusqu'à 19h, 19h30. C'était un peu moyen d'un point de vue équilibre. Donc ce que je me suis un peu imposé, c'est qu'à partir d'une certaine heure, tu vois, j'ai 18h30, je commence à éteindre mon ordi et je m'en vais. Mais c'est pas si évident à installer et à mettre en place. Finalement, le plus facile, ouais, c'est de se mettre des petits créneaux de sport ou d'activité après, tu vois. Comme ça t'oblige à partir du taf.
C'est effectivement dur de mettre un stop, surtout quand t'es perfectionniste. Mais effectivement, jusqu'à maintenant, je trouve que la meilleure des solutions, c'est d'avoir des activités et de s'y tenir. Tu te sens tellement mieux après, en plus, ça te recharge. Et ça peut être du sport, un atelier créatif ou un simple dîner avec des proches. Et finalement, qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton job ?
Alors, je dirais ce que j'aime le plus dans mon boulot, c'est la polyvalence. Et dès l'alternance, qui a pour but de toucher à tout, bah, je faisais de l'analyse des matières premières, je formulais pour évaluer l'impact de ces MP en formule. J'ai gardé cette dynamique-là après quand je suis passée en CDD. Voir, ça a été un peu plus poussé, parce qu'en plus de l'analyse, dans le projet sur lequel je bossais, j'étais amenée à faire de l'extraction sur des nouvelles technologies, donc j'ai eu un peu cette montée en compétences. Je suis même allée plus loin dans la formulation en touchant le maquillage et des galéniques crème un peu plus techniques. Et comme j'étais sur de la gestion de projet, un projet européen, qui était sa première fois qu'il t'a fait dessus. Sa première fois que la boîte avait un projet européen de cette ampleur. Du coup, c'était moi qui étais amenée à tout planifier, bah, les réunions, faire l'engagement, avoir un peu toute cette gestion financière du projet aussi de notre côté. Donc ça m'a fait pas mal monter en compétences. Et en vrai, sur toutes les postes que j'ai eues depuis l'alternance, en vrai, c'est ce que j'ai le plus aimé. Le fait d'avoir cette polyvalence-là, ouais, ça m'a permis de d'avoir une meilleure compréhension d'un peu de tout. Et un autre élément que j'aime beaucoup dans mon boulot, c'est le fait d'avoir plein de projets assez hétéroclites. Donc, j'ai eu des projets qui étaient vraiment à l'opposé de la cosmétique. Donc, globalement, j'étais dans une équipe où on faisait aussi de la valorisation de coproduits. Globalement, c'est valoriser les déchets de plantes qui sont gérées pour faire un ingrédient. Sortir des cosmétiques, j'ai trouvé ça vachement, vachement intéressant parce que du coup, j'ai dû m'intéresser à un secteur qui n'était pas du tout dans lequel je me suis spécialisée. Puis il y a un côté assez rassurant où je me dis, bah, en fait, si je peux m'amener à bien un projet qui n'est pas dans lequel je me suis spécialisée, bah, en vrai, est-ce que je ne suis pas capable d'aller dans un autre secteur, quoi.
Est-ce que les jours se ressemblent en termes de responsabilité? Est-ce que tu trouves que les semaines se ressemblent ou même les mois?
C'est vrai que les semaines et les mois se ressemblent. Il y a quand même cette routine-là qui s'installe. Et finalement, et puis le processus de développement des matières, elles sont les mêmes. Donc finalement, ça se ressemble pas mal. Ce qui est très bien aussi, c'est que cette routine, elle est cassée par des événements internes qui sont organisés par la communication scientifique. Donc en vrai, ça m'est déjà arrivé de faire des événements internes. Donc ça me sort de ma routine et ça me sort de mes missions. Donc typiquement, je sais qu'il y a une année où j'ai dû faire... on a préparé des journées dédiées à l'innovation et sur les sujets dans lesquels j'ai été sélectionnée pour présenter mes sujets mes missions, quoi. Pour le reste du centre R&D. Donc en vrai, ça m'a sorti de mes missions et par exemple, j'ai dû créer toute la scénographie de l'atelier avec la communication scientifique. Et j'ai trouvé ça super sympa d'organiser, de créer un univers.
Ok, je comprends. Du coup, les personnes qui nous écoutent devraient quand même prendre en considération que les journées se ressemblent un peu, mais qu'il y a toujours un peu de diversité dans les matières que tu travailles. Mais aussi que tu peux être amené à travailler sur des projets annexes, des projets de communication événementiels qui te permettent aussi de sortir ta routine. Et au-delà de ça, si vous préférez avoir une routine au sein de votre travail, mais d'avoir quelque chose en parallèle qui sort un peu de l'ordinaire, n'oubliez pas que le travail, c'est pas tout et que vous êtes aussi libre de vous créer un peu votre petit monde en dehors de tout ça. Tu as mentionné ton VIE et je voulais absolument finir sur ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'attend dans les prochains mois?
Donc le VIE, ça fait quand même assez longtemps que je connais le dispositif.
Okay.
Je crois en licence, je savais déjà ce que c'était. Hein.
Ouais, pareil. Donc c'est un volontariat international.
Un volontariat international d'entreprise. Je savais que ça existait.
Ouais.
Puis je savais un petit peu quel pays pouvait m'attirer. Toujours en lien avec le cosmétique.
Ouais.
Donc l'Asie. Et du coup, je me suis toujours dit, je partirai en VE au Japon, soit en Corée du Sud, un de ces deux pays qui est
leader dans le secteur.
Ouais, qui est ultra pionnier dans le secteur des cosmétiques. Bon, c'était un goal. Et en vrai, je l'ai un peu mise de côté cette idée-là quand je suis rentrée en alternance parce que c'était plus ma priorité. Et à l'approche de la fin de l'alternance avec ma manager, on s'est posé la question de ce que je voulais faire après. Parce qu'il n'y avait pas d'opportunité en CDI, donc il fallait quand même réfléchir à quelque chose. Et c'est vrai que moi, j'avais déjà réfléchi à ce que je voulais. J'avais deux options. C'était soit d'avoir une expérience dans les biotechnologies, des ingrédients cosmétiques issus de la biotechnologie, soit partir à l'étranger.
Okay.
À l'époque, j'avais réfléchi à faire un Erasmus+, qui est une sorte d'Erasmus pour les gens qui ont fait une alternance.
Okay.
Parce que comme j'ai fait 2 années d'alternance, je ne pouvais pas faire un Erasmus pendant mon master. Parce que j'étais en alternance et j'étais en entreprise. Donc c'est un Erasmus, c'est un stage de 6 mois qu'on peut faire après son alternance.
Okay.
Et t'as, je crois qu'il y avait, il y a un an pour le faire.
Ça marche.
À partir de la fin de l'alternance. Donc j'avais cette possibilité-là, mais du coup c'est Erasmus+, et ça m'obligeait à rester en Europe.
Ouais. Ce qui était pas l'ambition.
Ce qui est pas, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Et au final, je sais que dans mon entreprise, il y a eu un projet européen qui s'est construit et qu'on m'a proposé parce que c'était en lien aussi avec mon envie de faire, d'avoir une expérience dans les biotechnologies. Et là, c'était le cas. Donc, je n'ai pas eu l'autre choix, mais j'ai eu les biotechnologies. Donc, j'ai bossé 4 ans sur ce projet européen. Du coup, j'ai appris plein de trucs, plein de compétences techniques sur ces 4 dernières années. Et je crois qu'un des premiers points que j'avais eu à ma manager, elle m'a posé la question, elle m'a dit va falloir que tu réfléchisses à ce que tu veux faire après le projet européen. Du coup, je lui ai dit je sais déjà ce que je veux faire, j'ai envie de partir en VIE. Donc, je l'avais déjà un peu dit. Ouais. Et là, je l'ai vraiment bien fait comprendre et bien concrétisé. Je lui ai dit le VIE, je sais qu'il y en a 2 qui se font dans l'entreprise. Ouais. J'aimerais bien avoir l'opportunité de faire un VIE. Et du coup, ça s'est construit petit à petit. Et là, il y a une part de chance aussi qui fait que ma manager, elle est... Parce que du coup, dans l'organisation au travail, c'est que les VE se font dans les laboratoires internationaux.
Oui.
Et ces laboratoires internationaux sont gérés par un directeur. Et ce directeur-là a été le manager de ma manager pendant 7 ans. De bouche à oreille, le manager est un peu... avec le temps, elle a travaillé, Mazarine, elle aime bien faire un VIE. Et du coup, mon directeur du département était au courant, qu'il en a parlé au directeur des centres internationaux, donc ça, toute cette boucle, enfin, je savais que ça allait prendre du temps et qu'il fallait un peu...
juste se manifester.
Fallait que je manifeste,
ouais.
Et que ce travail de manager et des directeurs qui travaillaient entre eux pouvait prendre un peu de temps.
Ouais.
Et du coup, après, au fur et à mesure qu'ils ont parlé de relance de machin, j'ai pu avoir mon premier entretien avec le directeur des centres internationaux, le 6 mars.
On note, 24. Il y a un peu plus d'un mois.
Ouais. Et du coup, je lui ai fait part de mon envie de partir. Il m'a demandé pourquoi. Je ne l'ai pas précisé, mais pendant mes 6 mois de carence, je suis partie en voyage en Amérique du Sud seule en sac à dos. 6 mois continuellement stimulée par de nouvelles expériences, apprendre de nouveaux trucs.
À faire des randos incroyables.
À faire des randos incroyables.
Assez constamment, en fait.
Mm-hmm. Surtout alimenter...
ton envie, en fait, de continuer.
Ça alimentait davantage l'envie de faire le VIE.
Et du coup, ça se confirme et tu pars dans...
C'est le cul. Et je pars, j'ai pas encore mes billets d'avion, mais je devrais être au Japon dans 3 semaines.
Ouais.
Parce que je commence le 1er mai.
Ce qui est incroyable.
Oui. Victoire.
Ouais.
Qu'est-ce que j'ai?
Non. Félicitations. Un point hyper crucial, c'est de manifester et d'exprimer en fait tes besoins auprès de tes responsables.
Ouais.
Parce que personne ne pourra le deviner et tu sais pas combien de temps ça peut prendre. Donc le plus tôt tu le diras et plus tôt tu penses en fait d'y aller.
Exact.
Parce que si t'as eu cette conversation il y a un an et que t'as manifesté ça déjà quand on était avant.
Après, j'ai eu la chance aussi d'avoir quand même une manager qui m'a posé la question.
Ouais. Et qui est là pour te soutenir.
Ouais.
C'est vrai qu'en fait, il y a tellement d'éléments qui font que ça fait la différence.
C'est vrai que mon VE, je l'ai eu, certes, je l'ai manifesté. Mais il y a aussi tout le travail, et en vrai, je le pense profondément. Je pense que mon VIE, je l'ai aussi eu grâce à mes responsables.
Oui.
Parce que j'ai eu leur soutien, ils ont dit aux directeurs internationaux mes qualités. Je sais qu'un responsable est parti en voyage pro avec le directeur international et ma future responsable au Japon. Qui en a profité pour parler de moi, parler du VIE, que je voulais candidater, qui a mis en avant mes qualités. Et en vrai, je pense réellement que ça a fait la différence. D'avoir été soutenu par différents responsables, je pense que ça a appuyé ma candidature.
Ouais. Enfin, en gros, tout a commencé de la qualité de ton travail Et en fait, ils ont pu se reposer sur la qualité de ton travail pour un peu être tes avocats du cours auprès de la cour. Donc, il y a vraiment une combinaison en fait, de tout plein de choses qui ont fait que tu as pu être...
Mais c'est vrai que ouais, dans un parcours professionnel, je pense que le soutien de ses responsables est quand même indispensable.
Je suis d'accord.
Parce qu'en vrai, s'ils n'avaient pas dit au directeur, s'ils n'avaient tout simplement rien dit, rien manifesté, rien valorisé de mon travail, je ne suis pas sûre... moi, toute seule, j'aurais réussi.
Ouais, c'est hyper important, en fait, finalement, de montrer par tes compétences que tu le mérites.
Oui.
Ouais, c'est clair. Merci beaucoup, Mazarine. J'ai une dernière question pour toi. C'est, est-ce que tu as un ou plusieurs conseils pour les personnes qui nous écoutent, qui souhaitent suivre plus ou moins le parcours que t'as fait?
Oui. Après, pas forcément suivre vraiment la même spécialité que moi. Mais après, je pense que ça peut être dupliqué pour n'importe quel cursus. Mais je pense que au collège, lycée, fac, je pense que l'indispensable, c'est de réellement aller dans les portes ouvertes. Parce que c'est ce qui a fait la différence pour moi dans mes choix de... déjà au lycée, de choisir entre la classe prépa et la fac. Donc, ça a été assez décisif. Et après, en master, donc le fait d'avoir fait des portes ouvertes dans l'école que je voulais a été décisif dans le choix de mon master. Et qui en a découlé sur mon cursus et où je suis aujourd'hui.
Super, merci beaucoup.
De rien, c'était trop cool.